La marche du monde, Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire. De 1954 à 1962, plus d'un million et demi de jeunes Français sont partis faire leur service militaire en Algérie. À l'époque, la France annonce des opérations de maintien de l'ordre, puisqu'il faudra attendre 1999 pour que la guerre d'Algérie emporte enfin le nom.
Chaque jour, nos troupes des armées de terre, de mer et de l'air en Algérie se renforcent en personnel et en matériel. Les côtes de France disparaissent à l'horizon. Notre-Dame de la Garde semble donner sa bénédiction à ces jeunes métropolitains, demain soldats de l'armée d'Afrique, qui assureront après leur père la sauvegarde des grandes valeurs humaines que la France a toujours représentées aux yeux du monde et pour lesquelles elle s'est sacrifiée sans compter. Portant leur bagage individuel, nos soldats mettent le pied sur le sol africain. Dans quelques jours, rapidement adaptés, ils contribueront à la pacification aux côtés de leurs camarades déjà en opération.
Bien que toutes les familles françaises soient concernées, de près ou de loin, par cette histoire de guerre d'Algérie, les anciens soldats en parlent peu. Et dans les familles françaises, on entend souvent dire qu'ils n'en ont même jamais parlé. Mais avec le temps, de nouveaux récits deviendraient possibles. C'est ce que démontre l'historienne Raphaël Branche dans son livre joliment intitulé « Papa, qu'as-tu fait en Algérie ?» Une enquête sur un silence familial, c'est aux éditions La Découverte. Bonjour, Raphaël Branche.
Bonjour.
Et félicitations, vous venez de recevoir le prix Augustin Thierry au 23e rendez-vous de l'Histoire de Blois, justement pour votre livre « Papa, qu'as-tu fait en Algérie ?». Vous qui n'en êtes pas à votre premier livre sur la guerre d'Algérie, comment avez-vous eu l'idée de recueillir, non seulement de tenter de recueillir les récits des soldats, mais aussi plus largement de tenter de recueillir les récits des familles concernées par cette guerre d'Algérie ?
Comment est-ce que j'ai eu l'idée ? Ben, tout simplement, je pense, en me rendant compte qu'à chaque fois que j'interrogeais des anciens soldats, puisqu'en fait j'interroge des hommes qui ont fait la guerre d'Algérie depuis 20 ans maintenant, il était souvent question de leurs femmes ou de leurs enfants dans la maison où je venais. Parfois, leurs femmes me conduisaient à la gare. Enfin bref, j'avais des conversations en fait avec ces membres de la famille et j'ai progressivement pris conscience que ce serait intéressant aussi de les interroger, mais il fallait encore trouver un angle pour les interroger finalement. Et comme par ailleurs, j'étais souvent saisie par cette question qui était « ils n'en ont jamais parlé », tout d'un coup, voilà, le sujet s'est imposé, qu'il fallait que j'interroge non seulement ceux qui n'étaient censés n'avoir jamais parlé, mais qui à moi me parlaient, et leurs proches qui me disaient qu'ils n'avaient jamais parlé.
Alors ce qui est intéressant, Raphaël Branche, c'est que donc vous réfléchissez à cette question du silence, de ceux qui soi-disant n'en parlent jamais, et du coup vous sous-titrez votre livre « Enquête sur un silence familial ». Comment nos auditeurs doivent comprendre ce sous-titre ? Qu'est-ce que pour vous cela signifie ?
Alors « Enquête », je pourrais peut-être développer tout à l'heure, « Silence familial », c'est vraiment l'idée que il faut changer de regard sur le silence en réalité et il faut en tout cas, il me semble que c'est efficace, que c'est intéressant, que c'est heuristique, que ça permet de comprendre mieux les choses, de ne pas voir le silence simplement en relation avec l'événement qui a été vécu et qui ne serait pas raconté, mais le voir en fonction de la relation de communication dans laquelle éventuellement cette parole peut advenir ou pas. Et donc il s'agit bien de restituer une configuration de parole, en l'occurrence familiale, puisque c'est le premier ancrage de ces hommes. Quand ils partent en Algérie, ils sont au sein d'une famille et c'est cette famille qui va recevoir leur premier récit sur la guerre. Et ces récits qui vont évoluer au cours des décennies. Donc c'est le silence familial, c'est ça. C'est l'idée qu'il y a une configuration familiale qui permet notamment d'expliquer les silences et en fait plus largement les transmissions.
Et en cette date anniversaire des indépendances africaines, nous sommes 60 ans après 1960, on a tous et toutes en tête que cette guerre d'Algérie n'est certainement pas une guerre comme les autres. Elle serait plutôt une sorte de dernier épisode de la décolonisation, Raphaël Branche, ce qui lui donne un sens particulier. Est-ce que ça aussi, ça pourrait être une raison pour expliquer cette difficulté de dire cette guerre, au fond, pas très légitime?
Oui, en fait, je pense que c'est une série d'emboîtements, en réalité, qui explique les conditions de la transmission, puisqu'encore une fois, il n'y a pas que du silence. L'expérience individuelle du soldat, les configurations familiales, et puis la société, le contexte historique global. Et effectivement, le contexte historique global des événements qui ont lieu entre essentiellement 1956 et 62 pour les conscrits, c'est la fin de l'Empire colonial français. Et c'est la fin de l'Algérie française en particulier, c'est-à-dire une séquence qui a été très longue, qui a marqué, dans laquelle on grandit hein, aussi les conscrits. L'Empire français, ça faisait partie des évidences. Mais justement, l'évidence s'effondre. Et en fait, elle s'effondre en quelques années. Et pour ceux qui partent en Algérie, elle s'effondre sous leurs yeux, presque à leur corps défendant. Il y a quelque chose d'assez abyssal, en fait, vertigineux, à imaginer qu'ils sont partis, pour certains, avec l'idée que l'Empire français existait. Et puis, quand ils rentrent, ou quelques années plus tard, c'est devenu du passé. Donc, effectivement, ça contribue, je crois, à expliquer pourquoi, assez vite, il est compliqué de faire comprendre ce qu'on a vécu. Par exemple, quand on rencontre son épouse 10 ans plus tard et qu'elle a 15 ans de moins que soi, qu'elle ne se souvient finalement pas de l'Empire français, qu'elle ne sait pas ce que c'était, et la même chose pour les enfants. Donc oui, le contexte global explique aussi beaucoup.
Alors rappelons que ce que la France nommait les événements en Algérie, ça commence en 1954. Et 2 ans plus tard, au printemps 1956, le président du Conseil, Guy Mollet, en appelait à une mobilisation de tous les appelés.
Aujourd'hui, je vous dirai seulement ma confiance et mon espoir. Confiance en un pays qui manifeste son énergie et sa volonté, et dont l'autorité s'impose dans le monde. Espoir que la force de la France, que sa décision confirmée, ramèneront très vite la paix. Ces mots, confiance et espoir, je les adresse à tous les soldats d'Algérie. Je les adresse à leurs familles, à ceux qui attendent leur retour. Ma pensée, votre pensée à vous tous, vont vers eux en ce moment. Il faut qu'ils le sachent. Un grand peuple est solidaire d'eux. C'est une mission de paix qu'ils remplissent. Et c'est une mission nationale, dans l'intérêt de la France comme dans celui de l'Algérie. Je voudrais être votre interprète auprès de ces hommes et leur exprimer, à eux et à leurs proches, ce que vous ressentez tous avec moi. Nous sommes fiers d'eux, ils ont la reconnaissance du pays, nous ferons tout pour alléger leurs tâches.
Alors ces hommes, ils sont nés entre 1936 et 1942. Tous les garçons français âgés de 20 ans partent faire leur service militaire en Algérie. Et ce sont leurs voix que l'on entend dans votre livre, Raphaël Branche. Grâce à votre enquête menée dans une quarantaine de familles françaises, vous en avez rencontré beaucoup plus, mais vous avez conservé les archives de 40 familles, puisque leurs écrits pour vous étaient extrêmement importants. Est-ce qu'on peut parler d'une génération de garçons qui partent en Algérie?
Alors, oui, mais ce qui fonde leur génération n'est pas la guerre d'Algérie. Ce qui fonde leur génération, je crois, c'est leur enfance, en fait. Ce qui fait qu'ils appartiennent à la même génération que leurs sœurs et frères de la même époque ou que leurs épouses. C'est vraiment ce qui me paraît plus fondateur, finalement, c'est le fait d'avoir été enfant pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et très largement, cette enfance-là, elle explique beaucoup de choses. Elle explique la difficulté à identifier la guerre d'Algérie comme une guerre, sachant que sur la Deuxième Guerre mondiale pèse l'ombre de la Première, hein, qui est très très forte aussi dans les familles. Donc oui, je crois qu'on peut parler d'une génération si la génération, c'est une identité collective marquée par un événement historique majeur. Et pour les hommes, ça se rejoue, hein. Il y a évidemment une empreinte algérienne aussi sur cette génération d'hommes. Mais ils ont en commun avec les femmes d'appartenir aussi à la même génération de ces enfants dans la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, Et ça, on le voyait pas forcément assez, je crois, jusqu'à présent, en les ramenant à leur expérience quand ils avaient 20 ans. Voilà, il me semble qu'il y a au moins ces deux dimensions qu'il faut mentionner.
Alors, ils ont tous vécu cette expérience quand ils avaient 20 ans, Raphaël Branche, comme vous le rappelez. Et en même temps, vous montrez dans votre livre à quel point leurs expériences sont extrêmement différentes. Comment l'expliquer à nos auditeurs ?
La première chose, c'est que la guerre d'Algérie dure très longtemps. Elle dure 8 années en réalité, et même si tous les appelés du contingent n'y sont appelés qu'à partir de 56, il y a déjà des appelés qui sont présents dès 1954. Donc en réalité, ça peut concerner des hommes qui sont nés entre 1930 et 1942, donc c'est une très longue période de temps, et des hommes qui ont des âges qui peuvent être assez différents et donc des expériences de vie assez différentes. Et puis surtout, donc, cette durée de la guerre, ça correspond à une évolution des combats, hein, tout simplement, des méthodes sur le terrain, une évolution de la répression côté armée française, une évolution de l'armement du côté de l'ALN, donc une évolution des stratégies, enfin voilà, donc et à la fin de la guerre, un développement par exemple du terrorisme de l'OAS qui donne aussi là une couleur très particulière à l'expérience de ceux qui sont partis à la fin. Donc une expérience très différente parce que la guerre est très longue, des expériences très différentes parce que le pays est immense, et que la guerre se mène essentiellement dans des endroits isolés, mais qu'il y a aussi de la guerre en ville. Donc tout ça, ça explique effectivement beaucoup de diversité dans la dimension concrète de leur expérience, mais quand même suffisamment de points communs qui tournent autour de la découverte du pays, la découverte des habitants d'Algérie. C'est une immense découverte. Personne ne connaît l'Algérie avant d'y aller. Ils n'en ont aucune idée, en fait, ou quelques idées très, très vagues. Et donc, c'est vraiment la découverte de la beauté de ce pays, d'une autre culture, d'une autre langue, d'autres lumières, d'autres couleurs, d'autres odeurs. Énormément de choses, hein, qui vont beaucoup les marquer, quelle que soit la période à laquelle ils arrivent, pour le coup. Et puis aussi, bien sûr, une expérience de la guerre, c'est-à-dire la guerre, quelles que soient ces variations que j'ai dites, elles se caractérisent essentiellement par une chose, c'est-à-dire on risque de mourir et on est peut-être amené à tuer. Et ça, ça caractérise aussi toute leur expérience, enfin, quelle que soit la diversité des expériences. Donc il y a des points communs qui sont majeurs, en fait. Mais effectivement, parfois, les différences font qu'ils ont du mal à communiquer entre eux. Moi, je pensais, par exemple, que des frères se raconteraient leur guerre et pourraient s'aider l'un l'autre. L'aîné pourrait aider le cadet, lui donner des trucs. Alors oui, il y a des trucs autour de l'armée. Qu'est-ce que c'est qu'une armée? Comment on fait pour résister à un chef abusif? Ou comment on fait? Ou les bons plans? Des choses comme ça. Mais sur la guerre elle-même, quand le petit frère part 3 ans après l'aîné, la guerre a tellement changé qu'ils ont du mal, en fait, à échanger sur justement des choses pratiques, par exemple. Mais en fait, ils ont en commun, bien sûr, d'autres choses plus profondes, peut-être.
Alors nous allons partager avec nos auditeurs l'une des voix de votre livre. Il s'agit de Bernard Lemince, qui par ailleurs a écrit tout un livre avec des photos pour laisser un témoignage de son expérience à sa descendance. Bernard et sa femme Monique nous ont ouvert leurs portes à Rueil-Malmaison. Et voici comment l'ancien appeleur en Algérie s'est raconté à notre micro RFI.
Ben, je m'appelle Bernard Lemince et j'ai été appelé à l'armée janvier 1957. Mais j'ai passé 14 mois en France, ce qui nous emmène donc au mois de mars 58. Donc j'ai fait 15 mois en Algérie sans permission.
Vous avez quel âge ?
Ah, maintenant j'ai 83 ans.
Et quand vous partez en Algérie, vous avez quel âge ?
J'ai 21 ans. Ouais, je viens juste de les avoir.
Vous avez une idée de ce que vous allez faire là-bas, en Algérie ?
Une idée précise ? Pas vraiment. Pas vraiment. On sait qu'on ne va pas vraiment faire de la pacification. Ça, on en est à peu près sûr. Qu'on va faire la guerre, mais qu'est-ce que c'est que la guerre pour des jeunes de 21 ans? On a beau faire des exercices, c'est difficile d'imaginer. Parce que là, dans nos exercices, on tire à blanc. Toi, t'es mort, toi, t'es pour mort. On n'en sait rien, hein. C'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec la réalité. Donc, en fait, on ne sait pas vraiment. Et moi, qui suis, par la force des choses, je suis devenu sous-officier, je sais que je vais avoir à m'occuper d'une douzaine de garçons. Donc, j'en aurai quand même la responsabilité. Moi, j'étais à côté d'Orléansville, qui s'appelle Schleff maintenant. Mais j'étais dans une ferme. J'y étais, disons, la moitié du temps. Puisque le reste du temps, j'étais en opération. Parce qu'on était un régiment opérationnel.
Donc vous, vous avez été un combattant, c'est ça?
Oui. Et ça, je le revendique. Combattant, si vous voulez, j'étais pas parachutiste, je rencontrais pas les rebelles tous les 100 minutes, mais les quelques fois où je les ai rencontrés, c'était des combats. C'était des combats. On ne pratiquait pas la torture.
Comment vous êtes retrouvé à participer à l'enquête de Raphaël Branche?
Moi, ça fait 48 ans que j'ai adhéré à la FNACA. Et en lisant le journal, j'ai vu l'encart de Madame Branche. Et puis, je me suis dit, tiens, ça peut m'intéresser. Parce que moi, tout ce qui intéresse l'Algérie m'intéresse. Parce que une fois que je suis rentré, même si j'avais l'esprit quand même bien occupé, j'ai beaucoup suivi toutes les barricades, le putsch, et puis tout ce qui s'est passé ensuite en Algérie. Donc, j'ai envoyé un courrier à Madame Branche, et puis après, j'ai suivi le parcours normal de celui qu'elle a fait, c'est-à-dire sans problème, on a répondu à ses questionnaires.
Votre famille a immédiatement accepté de participer à cette enquête?
Oui.
Pourquoi?
Eh bien, parce que ma sœur, elle l'a vécu intensément, bien qu'étant petite fille quand même, elle avait 10 ans. Elle vivait au rythme d'arrivée des lettres, ce qui restait sous la nappe. Et donc, elle a été assez marquée. Mon frère, parce que lui, il était plus âgé, il avait 6 ans de plus, donc il avait 16 ans. Parce qu'il était intéressé par ça. Puis je lui écrivais aussi des lettres à lui spécialement. J'écrivais aussi des lettres à mon frère aîné qui n'est plus là. Madame Branche a l'air de dire que je suis un peu anticommuniste. En fait, non, c'est une petite guéguerre entre mon frère et moi sur ce sujet-là, quoi.
Bernard, en ce qui concerne cette expérience familiale, c'est-à-dire une historienne, Raphaël Branche, qui vous propose de répondre à des questionnaires sur la façon dont vous, Bernard Lemans, vous avez un peu raconté votre guerre d'Algérie à votre famille. Est-ce que ça a suscité des discussions entre vous?
Non, pas vraiment, non. Non, parce que moi, j'ai jamais rien caché. C'est d'ailleurs pour ça que mon fils, il n'a pas vu l'utilité de venir au repas qu'on a fait ici, parce que il connaissait tout, lui.
Ça veut dire quoi, mon fils connaissait tout?
Mon fils, lui, parce qu'il a eu aussi un questionnaire. Il a dû répondre aussi, parce qu'il y a des choses que je ne savais pas.
Ah, que vous ne saviez pas, c'est-à-dire?
Que quand il était petit, que je racontais mes histoires, il me prenait un peu pour un héros. Héros, j'en suis bien loin. oui, ça m'a un peu étonné. Et puis, il y a des choses que m'a dit ma sœur aussi, que je trouvais étonnant. Que ma famille a été éprouvée par les différentes guerres, mais comme beaucoup de familles françaises. Et donc, le frère de maman a été aviateur pendant la guerre de 14. Et je ne savais pas qu'il y avait une photo à la maison. Cette photo, je l'ai découverte beaucoup plus longtemps. Le frère de mon père, par contre, lui, il a été tué 15 jours après son départ de Saint-Brieuc, en pantalon rouge. Et puis, je remonte plus loin, j'ai eu aussi un cousin qui est disparu en 40, au début de la Seconde Guerre mondiale. Puis quand on remonte encore plus loin, j'ai un de mes arrière-grands-pères qui a fait la guerre, la campagne d'Italie sous Napoléon III. Tout ça, ce ne sont pas des gens qui étaient engagés, mais tous des gens qui ont été appelés. L'arrière-grand-père, lui, il a été appelé pour 7 ans, lui.
Vous voulez dire, Bernard, que le fait de répondre au questionnaire de Raphaël Branche, le fait que tous les membres de la famille participent à l'enquête, ça a permis aussi à vous, qui étiez le soldat de la famille en Algérie,
oui,
ça vous a permis de comprendre que les sœurs, les mères, les femmes, en fait, dans la famille, elles en avaient vécu beaucoup.
Ah, tout à fait.
Et que du coup, elles étaient dans quel état d'esprit?
Maman était inquiète tous les jours. C'est sûr, sur une des lettres que je reçois. Non, c'est Jacqueline qui m'a dit ça.
Jacqueline, c'est votre petite
sœur. C'est ma sœur.
C'est petite fleur.
Et elle m'a dit que maman, elle ne lisait les journaux que pour voir combien il y avait de morts la veille, quoi. Il y avait que ça qui l'intéressait. Et je comprends parfaitement la réaction de maman. Bon, pour Jacqueline, ça m'a plus étonné parce qu'elle était petite quand même. Mais apparemment, elle l'a vécu intensément.
Bernard Lemins, l'un des nombreux témoins du livre de Raphaël Branche, Entre les oreilles de Raphaël Branche, un ancien combattant qui a découvert à quel point sa mère et surtout sa sœur avaient intensément vécu sa guerre d'Algérie. Et ça montre bien, Raphaël Branche, à quel point, comme vous nous l'avez expliqué au début de cette émission, cette guerre d'Algérie a infusé au sein des familles et bien au-delà de celui qui s'est retrouvé en Algérie en tant qu'appelé à l'époque. Et on voit aussi que le fait que vous proposiez à ces familles de répondre à vos questions va leur permettre aussi de retrouver la mémoire d'une certaine façon.
Alors, pour répondre à la première partie de votre question, il y a effectivement une expérience métropolitaine de la guerre, assurément, qu'on a encore peu travaillé. Mais le fait que le soutien de famille parfois parte en Algérie, théoriquement ils ne partaient pas, mais en fait parfois ils partaient, que les revenus que le jeune homme pouvait gagner ne sont absolument pas remplacés par la solde qui est dérisoire, a eu des conséquences en fait sur les familles d'un point de vue purement économique. L'économie affective des familles aussi peut être bouleversée. Plusieurs ont pu avoir dans leur famille des parents malades, des événements comme ça qu'ils n'ont pu vivre qu'à distance, à l'époque où il n'y avait pas autre chose que le courrier ou le télégramme pour se prévenir. Donc il y a une vraie expérience de cette absence qui est longue. Bernard raconte là ces 15 mois, mais effectivement ils sont nombreux à avoir passé une année sans pouvoir revenir chez eux, sans permission assez longue pour pouvoir revenir en métropole. Donc il y a une vraie spécificité de l'expérience métropolitaine, elle existe, même si la guerre n'a pas lieu en France, n'a pas lieu sur les territoires français, même si les Français ne sont pas inquiets pour eux, contrairement à d'autres conflits qu'a connu la France auparavant. Et c'est une des grosses différences avec les deux conflits mondiaux précédents, bien sûr. Et puis, sur votre deuxième question, sur les effets de l'enquête, sur les récits, oui, dans le cas de Bernard, c'est un peu différent dans la mesure où il avait déjà écrit un récit, il est déjà dans une démarche, il a toujours raconté un certain nombre de choses à ses proches. Il avait déjà écrit à l'époque, et d'ailleurs ça a été un des sens de mon questionnement, c'est-à-dire de revenir aux premiers mots posés à l'époque sur la réalité quand on en a parlé à ses proches pour voir leur évolution au fil du temps. Donc dans le cas de Bernard, on ne part pas de rien du tout. Néanmoins, il y a dans cette famille des choses que j'ai retrouvées dans d'autres familles, à savoir des choses mi-dites, mi-cachées, une espèce de statut un peu intermédiaire, et comprennent qui pourra ce qui est finalement dit, ou des objets, notamment j'ai essayé de travailler sur les objets, des objets qui sont à certains endroits de la maison visibles et d'autres qui sont à des endroits plus retirés, plus associés au père. Et là on a dans cette famille, des éléments qui sont assez récurrents en réalité.
Alors justement, Raphaël Branche, vous qui vous intéressez à ce qui a été écrit, à ce qui a été dit au tout début, à ce qui est dit, à ce qui est peut-être parfois à moitié dit, vous vous intéressez beaucoup au courrier. On va en reparler ensemble, mais tout d'abord, je vous propose d'écouter comment Bernard Lemins, lui, écrit à l'époque à sa famille.
J'écrivais deux fois par semaine. Et j'essayais de faire celle de fin de semaine, j'essayais de l'écrire le vendredi de façon à ce qu'elle puisse arriver avant le week-end, pour qu'elle puisse passer un week-end un peu l'esprit en paix.
Alors vous écrivez quoi dans les lettres? Vous vous adressez à toute la famille? À qui vous écrivez?
En général, j'écrivais à toute la famille. C'était cher tous ou chers parents, frères et sœurs. Et donc je racontais, il a fait froid, il a fait chaud, on a transpiré, on a fait 30 km, il a plu, il a fait froid, enfin des choses comme ça.
Est-ce que vous leur racontez vraiment ce que vous faites, ce qui vous arrive? On rappelle que vous êtes un soldat combattant.
Ouais, mais dans mes lettres, je ne combats jamais.
Comment ça?
Non, je ne combats jamais, je raconte que... En fait, nous, même en état opérationnel, nous, on est sur les hauteurs, on encercle la zone, et en fait, ce sont les paras et la Légion qui font le travail, si vous voulez, si on peut appeler ça comme ça. Est-ce qu'ils me croyaient ou pas? Je n'étais pas sûr, mais je pouvais pas leur raconter que quand j'ai eu ma valeur militaire, donc j'ai vu un ruisseau qui devenait rouge du sang des gars qu'on avait abattus là-dedans. Moi, c'était pas possible de raconter ça. Puis maman, elle serait devenue folle. Hein.
Vous m'avez sorti une petite lettre.
Oui, tout à fait. C'était au lendemain de la journée où nous avions eu un gros accrochage. Et donc, je dis à mes parents, on a beaucoup crapahuté, il a fait chaud, on a beaucoup transpiré, fatigué. Quelques lignes, enfin, 5-6 lignes. Et tout de suite après, j'embraye sur les nouvelles de la maison et tout ça. C'est ça le silence des jeunes envers leurs parents.
C'est ça le silence des jeunes envers leurs parents, nous dit Bernard Lemince, l'ancien combattant qui ne combat jamais dans ses lettres. Et vous consacrez de nombreuses pages de votre livre « Papa, qu'as-tu fait en Algérie ?» aux lettres entre les soldats et leur famille. Est-ce que c'était une source importante de votre enquête, Raphaël ?
Alors oui, c'était une source importante et vraiment je suis très très reconnaissante à toutes ces familles qui me les ont communiquées parce que vraiment, enfin, elles ont envoyé par la poste, parfois dans un simple carton, des correspondances gardées pendant 50, 60 ans, précieuses. Donc, vraiment, je suis extrêmement touchée, en fait, de la confiance qu'elles m'ont faite. Et effectivement, j'ai choisi les familles du livre en fonction de ce critère-là, essentiellement, c'est-à-dire celles qui avaient répondu et qui, en plus, avaient conservé des documents privés qui me permettaient de revenir donc au fameux premier mot posé sur la réalité. Alors, les journaux intimes, ceux tenus par les soldats eux-mêmes, et puis les correspondances. Donc, c'est deux natures de textes totalement différents. Les correspondances me permettant d'avoir et de comprendre comment pouvait fonctionner à cette époque la famille. Donc oui, je les ai longuement étudiées, ces correspondances. À la famille de l'époque, c'est essentiellement, comme dans le cas de Bernard Lemince, les parents et les frères et sœurs. Plus rarement les épouses, puisqu'en fait ils sont trop jeunes pour être mariés à cette époque-là, donc parfois ils ont des fiancés. Et là, quand les couples ont perduré, la correspondance est parfois restée, pas toujours, parfois elle a été détruite au retour. Donc ce sont souvent des correspondances aux parents et aux frères et sœurs.
Et dans ces correspondances, les premiers mots du récit, de leur Algérie que vous recherchez, est-ce que ce mot de combat existe?
C'est difficile de généraliser à partir de ce que j'ai lu, mais quand même, je crois qu'on peut dire que globalement, l'essentiel pour eux était de rassurer. De rassurer, ça voulait donc dire que même s'ils évoquaient de la violence, donc ça pouvait être des combats, ça pouvait être des attentats, ça ne les concernait jamais. C'était toujours les autres, en fait. Donc, la bombe avait eu lieu, mais eux, ils avaient eu la bonne idée de rester au poste. Un camion avait sauté, mais c'était sur la piste d'à côté. Ou, comme raconte Bernard Lemince, il y avait des grandes opérations, mais lui ne faisait que du bouclage et il n'allait pas au contact. Donc, c'est tout à fait typique, cette manière, et c'est ce que je disais tout à l'heure, de dire et de ne pas dire. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'arrangement, hein, en fait, avec le contrat de confiance qui relie les membres d'une famille qui s'entendent bien, qui est « je vous raconterai, mais je ne veux pas vous inquiéter ». Donc voilà, et donc il fallait en dire suffisamment pour ce type de famille, hein, en dire suffisamment pour que les proches soient satisfaits, pas l'impression qu'on ne leur racontait pas, et puis évidemment pas en dire trop pour ne pas les inquiéter. Il y a des familles où on n'a pas l'habitude de se raconter les choses, il y a des familles où on communique peu, et où les soldats ont pu écrire absolument pendant la même chose pendant un an, c'est-à-dire « je vais bien, il fait beau, il fait chaud, j'ai faim » ou « j'ai pas faim ». Enfin, voilà, des choses absolument essentielles, ramenant à simplement la météo et l'alimentation et l'inexistence totale de la guerre. Ça aussi, ça caractérise des correspondances.
Alors qu'en vrai, comme on dirait aujourd'hui, surtout quand on a 20 ans, la part du combat, qu'est-ce qu'elle représente dans cette expérience de la guerre d'Algérie, des soldats en général, hein, de ce 1,5 million d'appelés qui ont fait leur service militaire en Algérie?
Alors, le combat, au sens où en parle Bernard Lemince là, c'est-à-dire vraiment une des opérations qui ont mis en danger sa propre vie, où il a dû tirer, éventuellement tuer des hommes, ça ne concerne effectivement pas la totalité des appelés. Je ne peux absolument pas donner un chiffre ou dire la majorité, la minorité. Contrairement à ce qu'on pense, en revanche, il faut bien dire qu'il ne s'agit pas simplement d'être exposé au combat et d'être opérationnel, comme il l'a dit. On pourrait imaginer, on imagine souvent que seuls les parachutistes, par exemple, étaient concernés. Pas du tout, du tout, du tout. Plein de régiments sont opérationnels et plein de régiments peuvent être exposés au danger et à la mort, tout simplement avec des mines antipersonnelles sur lesquelles on peut sauter, par exemple, ou des attentats. Donc en réalité, là, encore une fois, le danger, la menace concerne tout le monde, tous les appelés en Algérie, même celui qui était chauffeur ou qui était cuisinier. Aujourd'hui, je vois encore des enfants qui se rassurent en me disant « mon père ne risque rien, il était cuisinier », par exemple. Non, en fait, c'est pas si simple. Même un cuisinier pouvait rester un soldat français et pouvait être une cible. Mais c'est vrai que certains régiments l'étaient plus que d'autres et que certains régiments étaient tout le temps sur la brèche et d'autres pas, et que des régiments d'appelés pouvaient être tout le temps sur la brèche. Et ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas encore bien perçu, je crois, dans la représentation commune de la guerre d'Algérie. Pendant très longtemps, on a attribué aux militaires de carrière un certain nombre de choses, la torture notamment, mais aussi tout simplement le côté combattant. Les combattants, c'était des appelés. Les parachutistes sont aussi des appelés, par exemple, pour reprendre les parachutistes, mais pas uniquement. Donc, c'est une réalité qui a pu concerner beaucoup d'hommes, même si ça a pu être pour certains ponctuel, un mois, deux mois. Et puis après, changement de secteur, et dans ce secteur, on n'a rien d'autre à faire qu'à regarder la route et à attendre la nuit qu'il n'y ait pas d'attaque, mais il n'y en aura pas pendant des mois. Donc il y a aussi une grande variation selon les moments, selon les secteurs, et pas seulement selon les unités. Donc c'est pour ça que c'est compliqué d'avoir une réponse générale.
Mais vous avez répondu. Je vous propose de retrouver Bernard Lemins, que vous connaissez bien, Raphaël Branche. Il revient pour nous sur sa relation à l'Algérie, puis à sa guerre d'Algérie.
J'ai été élevé dans une ambiance chrétienne. Bon, faut bien le dire, j'étais quand même plus à droite qu'à gauche, inconsciemment. Et en fait, il y a eu trois périodes. Moi, la période avant, c'est-à-dire que l'Algérie, c'était une colonie où il y avait beaucoup d'Arabes et puis des Européens, où il y avait du vin et puis des oranges, c'est à peu près tout. Les Afellaga, c'était nos ennemis. Ils nous tiraient dessus, on leur tirait dessus. Et puis en revenant, ça a été autre chose, parce que là, j'ai voulu savoir ce que j'avais été faire là-bas. Et donc, je me suis documenté, et c'est là que j'ai vu que c'était pas tout à fait ce qu'on nous avait raconté, quoi. Alors, j'ai pas de remords, j'ai pas de honte pour ce que j'ai fait là-bas. Parce que, justement, j'ai pas participé à de la torture ou des choses contre les gens. Mais j'ai pitié de ces gens-là parce que, en fait, ils ont donné leur vie pour leur liberté, quoi. Même si on les prenait pour des terroristes, s'il faut dire qu'aussi qu'ils couraient les bruits, et je pense que ce n'était pas que des bruits, que certains des nôtres ont passé des sales moments, et nous, justement, ce jour-là où j'ai eu la valeur militaire, là, où on s'est bagarré, il y a un de nos copains qui l'ont pris. Et on l'a retrouvé le lendemain, nu, tabassé et égorgé. Donc, c'était pas que des bruits, puisque là, on a vu la réalité. Alors ça alimentait la rage des gens. Et je dois bien admettre que les prisonniers qu'on avait, ils n'ont pas été torturés. Mais il y avait la haine des gars, et ils ont été tabassés, c'est sûr. On les a pas tués.
La question du combat et la question de la torture, un sujet sur lequel vous avez beaucoup travaillé, Raphaël Branche. C'était d'ailleurs le sujet de votre livre publié en 2001 aux éditions Gallimard, « La torture et l'armée pendant la guerre d'Algérie 1954-1962 ». Est-ce que c'est un sujet, la torture, qui fait partie de ce silence familial sur lequel vous avez enquêté ?
Alors oui, ça en fait complètement partie. En tout cas, depuis une vingtaine d'années. Parce que depuis une vingtaine d'années, en France, on a pris conscience progressivement du fait que la pratique de la torture pendant la guerre d'Algérie, qui est une réalité connue depuis la guerre, et qui est une réalité qui marque les représentations collectives depuis la guerre, Mais on a pris conscience depuis une vingtaine d'années que cette pratique n'était pas le fait uniquement de militaires de carrière. Jusqu'à présent, on avait une vision qui était finalement assez confortable pour les anciens combattants, anciens conscrits, qui était celle diffusée notamment par le film La bataille d'Alger de Gillo Pontecorvo, avec des militaires de carrière, des parachutistes, identifiés encore une fois à ces militaires-là. Et donc, ça ne concernait pas les conscrits. Et donc, la question n'était pas arrivée forcément aussi frontalement dans les familles qu'elle est arrivée depuis une vingtaine d'années. Ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas en sourdine, mais là, elle est beaucoup plus frontale et plus angoissante, en fait, aussi, je crois, pour certains enfants qui se demandent finalement si le silence qu'ils perçoivent chez leurs proches, enfants ou neveux, ou, n'a pas sa racine dans ce type d'acte, la torture, mais aussi d'autres violences commises par ces hommes sur des populations civiles désarmées. Puisqu'en réalité, avec la torture a aussi jailli le thème des viols, et on a peut-être moins parlé, mais ça l'accompagne complètement, les exécutions sommaires de prisonniers ou de civils. Donc il y a une espèce de monde un peu noir comme ça qui est remonté il y a une vingtaine d'années et qui est présente maintenant dans les représentations dominantes de la guerre, beaucoup plus qu'avant, qui travaille les familles. Mais encore une fois, elles ne l'ont pas travaillé depuis le départ, elles ne les ont pas travaillées depuis le départ. Et c'est aussi ça que j'essaye d'identifier, c'est que les questions qu'on pose à un proche qui a fait la guerre, elles évoluent avec le temps, elles évoluent avec la relation, par exemple, fils-père. On ne s'adresse pas à son père de la même manière à 10 ans et à 50 ans. Et elles évoluent aussi en fonction de la société dans laquelle on évolue. Et donc la famille, elle est prise dans cette gang sociale. Et concrètement, sur la guerre d'Algérie, il y a de plus en plus de possibilités de s'informer disponibles pour les anciens combattants eux-mêmes. Bernard Lemince a dit je me suis documenté, donc ils sont nombreux à avoir cherché à comprendre ce qu'ils n'avaient pas compris à l'époque. Et puis leurs proches que ça intéresse peuvent aussi se documenter. Dès lors qu'ils se documentent, ils peuvent revenir à l'expérience de leurs proches avec des questions. Ça ne veut pas dire que ces questions, ils vont leur poser du tout, hein. Mais ils vont se les poser. Et voilà, donc ça aussi, ça a une histoire. Et donc, effectivement, le thème de la torture, le thème de quelle guerre vous avez faite là-bas, il est bien présent désormais.
Et dans les familles, ce qu'on a envie de savoir aussi, ce qu'on a envie de comprendre, c'est comment ça s'est passé après. C'est la question du retour en France, la question aussi des histoires d'amour. Vous nous avez dit qu'il y avait aussi des correspondances amoureuses. En ce qui concerne Bernard, l'amour, c'est le moment du retour, puisque c'est là qu'il rencontre Monique.
Moi, je connaissais pas. Je la connaissais de vue, mais je peux pas dire que j'avais jamais parlé à ma femme. On allait au même lieu, c'est-à-dire à l'église. Il y a un copain commun qui nous a invités à prendre l'apéro pour dans un bar à Rueil-Ville, là, pour fêter mon retour. Mademoiselle a été invitée aussi. Et du coup, comme elle habitait à côté de chez moi, je l'ai raccompagnée, puis voilà. Puis l'important dans l'affaire, c'est que elle m'a entraîné dans les ébats d'une joyeuse bande qui a fait que les choses que je pouvais avoir encore dans la tête, ce que j'avais vu, sont parties un peu, quoi. Elle m'a régénéré.
Et quand vous vous rencontrez, Monique, vous avez quel âge ?
On avait le même âge, 10 mois d'écart.
On a 10 mois d'écart. Là, on a le même âge en ce moment.
Donc vous avez quoi, 22 ans tous les deux ?
Bah, à peu près.
Et vous lui posez des questions sur l'Algérie ?
Non.
Pardon ?
Pas du tout. Alors ça me passait vraiment au-dessus de la tête. J'étais avec une copine et puis j'allais au bal tous les samedis soirs à Paris. Et puis, on sortait et puis ça nous passait au-dessus de la tête, l'Algérie.
Dites-moi, Bernard, en 1999, quand l'État français a reconnu qu'en Algérie, ce n'était pas des opérations de maintien de l'ordre, mais que c'était bien une guerre, qu'est-ce que vous avez ressenti, vous ?
Qu'on reconnaissait enfin ce qu'on... Nous, on a toujours pensé qu'on était, quoi. Enfin, moi, personnellement.
C'est-à-dire ?
Que j'avais fait une vraie guerre. quand on voit des avions qui strafent, quand on voit des bombardiers qui lâchent des bombes ou des bidons de napalm sur des gars qui sont dans sur le piton à 1500 mètres, on peut pas dire qu'on est en train de faire du service d'ordre. Hein, c'est pas possible. Moi, les quelques fois où ça m'est arrivé, des fois, c'est vrai, je disais, c'est presque le cinéma, quoi. Mais c'est fou, quoi, de voir ça. Et puis, quand on est très proche, vous entendez l'avion qui passe au-dessus de vous, et puis qu'il y a toutes les étuis des balles, des cartouches qu'il a tirées, qui vous dégringolent, puis ça fait un drôle de bruit au-dessus, parce que ça tombe au milieu des arbres. Ça fait un carillon. J'ai dit à un copain, qu'est-ce que c'est qui se passe là? Il m'a dit, c'est les balles qui font un carillon, quoi. Et là, et puis l'avion, il tire juste devant nous. Ça, c'est pas du service d'ordre. Pour ça, je lui dis, quand on nous a dit qu'on était combattants, ça me semblait évident dès le départ. Il y a un point que je voudrais signaler, que Madame Branche ne parle pas. Moi, j'étais très humilié quand j'ai été libéré. Parce que sur le quai de la gare, d'ailleurs, devant tout le monde, devant les Arabes et tout ça, nos valises, nos sacs, tout ça, ont été fouillés par des gendarmes. Alors que il y avait quand même une bonne partie des gars qui avaient une médaille, enfin une valeur, c'est pas une médaille, hein, c'est une croix, la croix de la valeur militaire. J'ai trouvé que c'était quand même innommable, quoi. C'était infernal. J'ai trouvé ça anormal quand même.
Ça vous est resté là?
Ah oui, tout à fait. Oui, ça m'est resté en travers de la gorge, oui.
Merci beaucoup, Bernard.
Mais je vous en prie.
Merci à tous les deux.
J'étais content de vous voir.
Grâce à vous, Raphaël Branche, qui m'a permis de rencontrer Bernard Lemans. L'amertume, en même temps, de Bernard Lemans à son retour d'Algérie. Bernard est toujours aussi contrarié lorsqu'il raconte la fouille de ses bagages. Et puis, il raconte aussi combien Monique, sa femme, l'a régénéré. Comme s'il avait fallu passer quand même rapidement à autre chose, hein, Raphaël Branche.
Oui, et je voudrais juste réagir sur ce qu'il a dit, effectivement, sur la fouille, effectivement, sur ces... Parce qu'on peut faire... Ce souvenir revient... à propos de la question sur la reconnaissance par l'État en 99. Et en fait, ça, c'est pas étonnant. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ne se sont pas sentis considérés à aucun moment, je crois, de l'expérience à la hauteur de ce qu'ils vivaient. C'est-à-dire qu'on parle quand même d'un État qui envoie tous ces jeunes en apparence pour faire leur service militaire. Et c'est ça qu'on leur dit. Et en fait, là-bas, ils risquent leur vie. Et ils sont confrontés à un certain nombre de réalités qui peuvent les choquer profondément. Et l'État ne prend pas du tout ça en considération. Donc effectivement, il y a la croix de la valeur militaire dont il parle, qui est la décoration la plus élevée qu'on a inventée pendant la guerre d'Algérie, qui n'était pas une guerre. Mais voilà, je pense que cette souffrance-là, cette souffrance intime qui est de dire il y a une violence qui nous est faite, finalement, parce qu'on nous envoie et on ne nous reconnaît pas. À aucun moment, on ne les a reconnus. Et finalement, 99 arrive, effectivement, très tardivement. Même si, en 1974, ils avaient pu obtenir le statut d'ancien combattant. Mais on avait ce paradoxe qu'ils étaient anciens combattants de quelque chose qui n'était pas une guerre. Donc c'est quand même très, très long, cette reconnaissance de l'État. Et j'ai parlé tout à l'heure des 20 dernières années où il se passe un certain nombre de choses du point de vue de la mémoire et du récit dans les familles. Et c'est aussi il y a 20 ans, hein, finalement, que cette guerre a été reconnue. Donc beaucoup de choses s'expliquent, je crois, par là. Et pour la deuxième question sur le retour, oui, effectivement, ils ont 20 ans, quoi. Ils ont 20 ans, 22 ans, ils ont quand même juste très, très envie de vivre. Et beaucoup disent qu'on leur a volé 2 ans de leur vie ou 1 an de leur vie. Donc c'est très fort, hein, cette impression qu'il faut rattraper le temps perdu. Il y a souvent ça aussi qui revient. Et donc les histoires amoureuses sont évidemment la manière la plus agréable, sans doute, de le faire, de rattraper ce temps perdu. Et puis de se mettre au travail, de chercher un travail, de gagner sa vie, de quitter le logement familial. Enfin voilà, il y a tellement de choses à faire qu'évidemment, personne ne va les interroger sur ce qu'ils ont fait en Algérie, surtout s'ils l'ont raconté par lettre et qu'on a l'impression qu'ils en ont déjà bien parlé. Donc ça, assez naturellement, on comprend qu'ils n'ont pas forcément envie de raconter longuement. Peut-être ils auraient aimé qu'on les écoute plus. Et globalement, tout le monde les incite à construire et à regarder devant. Donc dans un premier temps, on comprend que les familles aient tourné autour d'autres récits qui étaient plutôt des récits de projection, la nouvelle maison, le nouveau métier et quand on pourra les enfants.
Et dans une France nouvelle également, parce que c'est comme la France des années 60, oui. Raphaël Branche, on va rafraîchir la mémoire de nos jeunes
auditeurs. Dans une France qui change énormément, et il faut quand même se dire, c'est comme s'ils avaient été mis entre parenthèses finalement. Ils partent en Algérie, la France est dans un certain état, sa société, elle est en pleine reconstruction après la Deuxième Guerre mondiale. Ils reviennent un an plus tard et il a pu se passer beaucoup de choses. Alors peut-être le plus flagrant, c'est l'ancien franc, le nouveau franc par exemple, mais il y a plein d'autres choses, là, le développement du téléphone, le développement du... de la machine à laver le linge, les réfrigérateurs, enfin, le type de voiture. Et puis, à l'échelle macroéconomique, la mutation du monde agricole, qui est quand même la grande mutation de cette époque, la disparition progressive du monde agricole tel qu'on l'a connu pendant des décennies et qui là disparaît. Et l'urbanisation, l'industrialisation, la tertiarisation de l'économie, tout ça se fait très vite. Plus, j'ajoute, et c'est essentiel, des mutations très fortes dans les familles françaises. Des mutations vraiment fondamentales. Je pense qu'on ne prend pas forcément assez la mesure de ce que ça veut dire l'égalité entre les parents, hein, qui rentre dans la loi en 1970 et qui veut dire que ce n'est plus le père qui décide pour les enfants dans un couple. Ou... Et donc ce genre de... Il y en a d'autres, hein,
oui, qui ont lié... De son mari,
voilà, la contraception devient accessible, on peut donc faire des projets organiser les grossesses, enfin, vraiment énormément de bouleversements des familles françaises qui font que vraiment, cette guerre d'Algérie et cette période et cette vie dans la France des années 50 appartient à un autre temps, alors que c'est peut-être parfois 5 ans ou 10 ans avant seulement.
Est-ce que cela veut dire aussi, ce sera ma dernière question, Raphaël Branche, que le traumatisme hein, de ce vécu guerrier, alors qu'on était parti faire son service militaire, il va s'enquister dans ce silence?
Je ne pense pas qu'il y ait toujours traumatisme en réalité. Il peut y avoir difficulté à se faire comprendre. Mais ça ne veut pas dire traumatisme. Et oui, effectivement, moins on parle, plus c'est difficile de parler, sans doute.
Et le temps du récit serait venu?
Il se passe des choses depuis 20 ans. Voilà, c'est ça que je peux constater. De plus en plus d'anciens appelés prennent la plume ou l'ordinateur et essayent d'écrire. C'est parfois plus compliqué de parler, mais écrire, ils sont vraiment nombreux à essayer de coucher leurs souvenirs sur le papier et donc à partir de là, grâce à ces écrits, transmettre et peut-être provoquer des échanges. Oui.
Merci.
Merci à vous.
Merci Raphaël Branche pour votre livre qui s'adresse absolument à toutes les familles françaises. Un livre qui nous donne à entendre ceux qui, soi-disant, n'en parlaient jamais. Papa, qu'as-tu fait en Algérie, publié aux éditions La Découverte.
La France doit-elle rester en Algérie? Si vous répondez encore oui, vous devez en accepter toutes les conséquences nécessaires.
Algérie, sortir du silence. C'était un nouvel épisode de La Marche du Monde, réalisé par Sophie Janin et Denis Gambiagi, à retrouver sur RFI.fr. N'hésitez pas à réagir, exprimez-vous, podcaster. Cette émission, c'est la vôtre.
Depuis que je suis né, j'ai vu mourir des pères, j'ai vu partir des frères et pleurer des enfants. Les mères ont tant souffert et d'autres se gobergent et vivent à leur aise malgré la boue, le sang. Il y a des prisonniers, on a volé leur âme, on a volé leur femme et tout leur cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai par les chemins.